bienvenue sur Graphite 94.9. Donc aujourd'hui, on a un invité spécial sur Graphite dans Monde Libre.
Donc effectivement, bienvenue dans Monde Libre sur Graphite. Aujourd'hui, on accueille Yann Moulier-Boutang. Yann Moulier-Boutang, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes notre premier invité en fait, hein, puisque c'est la troisième émission qu'on fait. Donc je vais vous laisser Merci. Je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement ce que vous faites, vos occupations. Allez-y.
Alors écoutez, moi je suis enseignant, chercheur ici. Je m'occupe à la fois de du GE10, le cours d'économie politique, et puis le cours, le GE28 sur les droits de la propriété intellectuelle industrielle. Disons que mes recherches portent sur trois choses. J'ai beaucoup étudié les migrations internationales, l'esclavage, d'un point de vue historique, sur lequel j'ai fait ma thèse, et puis ce que j'appelle le capitalisme cognitif, c'est-à-dire les transformations actuelles profondes du capitalisme, ce qui m'a amené à faire un petit bouquin qui va paraître dans moins d'un mois aux éditions Amsterdam, qui s'appelle « Le capitalisme cognitif », et puis un autre bouquin que je prépare sur les sociétés pollen. Voilà, et je m'intéresse évidemment particulièrement à toutes ces questions des nouvelles technologies, du numérique et des transformations que cela induit, aussi bien dans la vie quotidienne que dans les libertés publiques, mais aussi, évidemment, dans les modèles économiques et productifs.
D'accord. Donc c'est tout à fait de bonne aloi pour l'émission d'aujourd'hui, puisqu'elle sera consacrée exclusivement, enfin en partie, à la loi d'AFSI et au DRM, qui sont deux actualités politiques un peu depuis 2006.
Depuis 2006.
Donc pour faire un petit plan rapide, on commencera d'abord par parler de la loi d'AFSI, puis ensuite des DRM.
Voilà. Parfait, d'accord, je vous suis.
Donc ça s'inscrit tout à fait dans le cadre de l'émission et des libertés. Donc la loi d'AFSI, c'est une loi qui relative aux droits d'auteur, aux droits voisins dans la société de l'information. Donc justement qui cherche à réguler le copyright pour empêcher la copie privée, enfin qui s'inscrit l'empêchement de la copie privée. Et donc ensuite les DRM qui est le côté technique, c'est-à-dire le côté technique qui permet justement d'empêcher la copie privée ou de protéger les droits d'auteur en limitant la copie des CD qu'on achète et en régulant tout ça.
Voilà. Donc pour faire un petit historique, d'abord on peut parler de la directive européenne qui date de 2001, qui a été dictée en quelque sorte par l'OMPI, dont on a un peu parlé la dernière fois avec Quentin, qui est l'organisme mondial de la propriété intellectuelle. Donc l'OMPI a soufflé un peu à l'Union européenne une directive qui a ensuite inspiré, enfin qui a un peu forcé la loi d'AFSI, on va dire, puisque la Cour de justice européenne s'est pas gênée pour rappeler à la France qu'elle l'avait pas retranscrite. Oui. Donc ça part de là. D'abord en 2001 l'adoption de l'EUCD, donc la directive européenne sur les droits d'auteur, et ensuite en 2003 la loi d'AFSI. D'abord, enfin les débuts de la loi d'AFSI.
Non, la loi qui s'appelle la loi de confiance de la société numérique et qui en fait met un peu en place les bases de la loi d'AFSI. Alors, je ne sais pas s'il faut... Vous voulez que j'en parle, qu'on en...
Allez-y.
Alors, il faut bien comprendre d'abord que ce n'est pas un phénomène exclusivement français. C'est un phénomène mondial. Comme toute régulation de la part des pouvoirs publics, elle part de transformations réelles qui rendent caduques des pans entiers du droit et les pratiques ont modifié totalement un certain nombre de choses. Chaque transformation, chaque fait technique important, comme la photo, comme la télévision, comme la radio, comme le magnétoscope, puis évidemment le numérique, ont entraîné une révision profonde des lois de propriété, sur la propriété intellectuelle, droit d'auteur, marque, consommation culturelle, etc. Alors, la loi, avant qu'on ait la DAFSI qui a été prise, si vous voulez, un petit peu dans l'urgence et qui a donné lieu à une escarmouche parlementaire comme on en avait rarement vu depuis 30 ans, il faut dire qu'il y avait eu la loi faite par Madame Fontaine, qui avait été présidente du Parlement européen et qui avait essayé de mettre en place une loi que certains n'ont pas hésité à traiter de loi scélérate. Je vous renvoie par exemple aux analyses de gens comme Olivier Blondeau, Aris Papathéodorou, qu'ils ont écrites d'ailleurs dans la revue Multitude. Alors quel était le problème? Eh bien c'était, on assiste, si vous voulez, devant un objet qui est transnational, multinational, mais pas les multinationales, hein, transnational au sens où ça met des gens en contact, des étudiants chinois, des étudiants américains, des étudiants partout dans le monde, on assiste évidemment à une réaction des États. Les États aimeraient réguler les choses. Quelquefois en bonne part, par exemple quand les Français ont commencé à vouloir appliquer la loi Guesso et interdire la vente sur le web en libre d'objets et de signes carrément nazis, qui sont en vente libre aux États-Unis comme les armes, mais qui évidemment posaient un problème considérable et parfois en mauvaise part, parce que les États aimeraient bien contrôler les choses. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, Google a confirmé une chose qui est vraiment un coup de poignard dans le dos à l'Internet et à la culture de l'Internet, en acceptant, comme Yahoo l'avait fait, le principe que pour avoir l'ouverture des marchés chinois, Microsoft, Google, Yahoo ont tous proposé de respecter une censure, ce qui veut dire que quand vous cliquez sur un certain nombre de mots dans l'international, que ce soit Place Tiananmen, Révolution de 1989, la chose est entièrement squeezée et disparaît des écrans chinois. Donc, si vous voulez, c'est une attitude, je me disais ce matin quand j'ai lu ça, c'est vraiment une attitude, il y a deux degrés de liberté. Il y a le degré des libertés des gens pour le régime mondial, et puis, bien que la Chine parle de l'ouverture, il y a un régime spécifiquement surveillé des libertés publiques. Voilà, alors ça, c'est la loi donc de liberté dans la société numérique, la loi de confiance dans la société numérique, où les États ont tiré parti de deux choses, deux abus classiques. La grande criminalité... on en voit aujourd'hui des tas de choses à propos de la contrefaçon de l'achat de médicaments en ligne, où on voit sur les télévisions, on vous dit attention, quand vous achetez des médicaments en ligne, la plupart sont des faux, ce qui devrait être un petit peu plus discuté que ça, parce que beaucoup de gens achètent en ligne au Canada, aux États-Unis, achètent au Canada des médicaments moins chers et ils sont livrés correctement. En réalité, on prend toujours... Bon, ça a été la grande criminalité, si vous voulez, et de l'autre côté, la pédophilie. Et les sites pornographiques, puis enfin, j'ajoute le terrorisme. Avec cette sainte trinité, on avait de quoi dire que, attention, objet dangereux, mettre sous tutelle, installer des choses pour contrôler l'usage de l'Internet. Alors, ce qu'il faut en penser, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais moi, je crois que c'est une... il est très important, comme dans toute communauté, la communauté du net est une communauté qui se définit par des valeurs, par une adhésion d'un très grand nombre de gens. La meilleure police de l'Internet est celle que les internautes, auxquels les internautes procèdent eux-mêmes, comme d'ailleurs le contrôle le plus intelligent du point de vue de tas de choses comme l'espionnage, les déviances, etc. J'ai beaucoup plus confiance dans le fait que la communauté sait l'organiser et organise elle-même le degré de répression qu'elle souhaite avoir, mais refuse un degré d'hyper-répression, que de se tourner vers l'État qui a quelques arrière-pensées évidemment politiques non dissimulées. Il suffit de penser aux manipulations dans la presse écrite auxquelles a pu donner lieu la dernière campagne présidentielle. Regardez la difficulté pour un certain monsieur Bayrou d'organiser son face-à-face dans les télévisions et dans les chaînes publiques, pour vous dire que si l'État met vraiment les mains dans le cambouis de l'Internet, on a tout à en craindre pour les libertés publiques.
On risque d'arriver aux mêmes déviances. Ouais.
Oui, mais avec des déviances que là, on ne contrôlera pas. On aura du terrorisme d'État au lieu d'avoir du terrorisme subalterne et débile, profondément débile. Et on aura... sur les questions, si vous voulez, moi, je crois que les choses concernant la pédophilie aussi sont portées par une espèce de vague maintenant moralisatrice anti toutes les valeurs de 68 qui est quand même extrêmement aussi dangereuse parce que il est évident qu'on ne met pas le même enthousiasme et la même obstination, par exemple, à régler le problème de la vente d'armes qui circule en libre dans des tas d'endroits, hein, comme bien sûr les États-Unis, mais on ne parle jamais du Darfour qui livre, où les autorités chinoises et soviétiques livrent par Boeing 747 entier des armes qui servent à fabriquer du génocide.
Donc merci de cette présentation. Donc on est là justement pour s'opposer un peu à la déviance qui peut arriver avec la législation et la privatisation des libertés du net. Donc tout de suite, on va vous passer un peu de musique pour vous détendre. On se retrouve tout de suite après une pause musicale. Toujours sur Graphite 94.9 et sur internet ghstreaming.tc.fr. Voilà. Donc on s'écoute tout de suite Anna Baz avec le titre My Castle Dawn. Donc un titre sous Creative Commons qu'on a trouvé sur chaos.com. Voilà. Thank you.
you. I laugh the laugh to lie. I believe you'll chase my fear. I know they will write my name on stone. No light gives life to stone. Whatever they believe, I believe in mind myself. I can hear your cries inside. Calm down, my castle's down. A little girl under a veil, she says, I love a disguise. I can hear your cries inside. Calm down, my castle's down. And I jump into the void like a babe in a puddle. I close my eyes. I hope you'll find it out. My sins, my sigh, the grim room of my thrills. I believe you won't tear me down. I know it's time for my skin and my bones to drown the clouds and leave the lake. Simple flying sun. I believe my fear is gone. I can hear a girl who cries inside. Calm down, my castle's down. A little girl under a veil, she says, I love a disguise. I can hear a girl who cries inside. Calm down, my castle's down. When I jump into the void like a babe in a puddle, I close my
Vous êtes toujours dans Monde Libre sur Graphique 94.9 avec notre invité Yann Moulier-Boutang. Alors avec vous, Yann Moulier-Boutang, on a parlé il y a quelques instants de la LCEN qui est à la base un peu de la loi d'AFSI et des dangers que pouvait représenter quelque part la prise de contrôle des États sur l'Internet. Voilà. Ce genre de choses.
Alors il est important, là, la DAFSI s'est attaquée à l'enjeu des questions économiques et en particulier, si vous voulez, au fait qu'on est rentré dans le cœur des enjeux financiers. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'industrie du disque et de la production de musique, représentée en France par la SACEM et puis ce qu'on appelle les majors, c'est-à-dire les plus grandes entreprises de diffuseurs de musique et productrices de musique, se sont rendues compte que la brèche numérique et la brèche de l'Internet était une brèche du libre. C'est-à-dire que, si vous voulez, la création, non seulement le fait que les gens se connectaient de plus en plus à l'Internet, mais surtout le haut débit, on a vu, et le format du MP3, on a vu que la musique pouvait être compressée, téléchargée rapidement et avoir un niveau très satisfaisant, pas le niveau professionnel top, mais ça va venir. Et donc là, c'est le son qui s'est trouvé complètement bousculé par le numérique. Une chose qui est très importante de comprendre, c'est que quand vous achetiez des 45 tours et que vous étiez dans l'analogique ou des disques classiques, le passage du disque, si vous voulez, ou quand vous le passiez sur une bande magnétique, au bout d'un certain nombre de passages, le disque était foutu. Donc évidemment, c'était une occasion de renouvellement. Hein. Quand on vous dit que les gens qui faisaient des disques d'or, des 45 tours, ils faisaient 1 million d'exemplaires, il y avait plein de groupies ou de fanas qui avaient acheté 5 fois le même disque parce qu'il était complètement usé au bout de 40 passages, ou 100 passages. Là, avec le numérique, c'est très embêtant pour les compagnies de disques parce que imprimer numériquement, et le disque peut être reproduit, gravé sur les ordinateurs. Et puis, surtout, sauf si évidemment vous faites des tas de choses impossibles avec votre CD, en principe, ou s'il est sur un fichier, il y a très peu de chances qu'il se corrompe naturellement. Et il est totalement, ça lui est totalement différent que vous le passiez 100 fois, 2 fois, 200 fois, 400 fois. Donc, état d'alerte des industries du disque qui prétendent que c'est une catastrophe, qu'elles perdent que les millions de téléchargements par jour sont autant de manques à gagner. Et là, on va rejouer sur la scène française ce qui s'était joué sur la scène américaine avec le procès Napster, puis Gnutella, puis Casa. L'important, et ce qui est important, c'est qu'on voit très bien les intérêts en jeu, des intérêts privés de majors, dont le catalogue n'est pas ce qu'il y a de plus brillant nécessairement, ni ce qu'il y a de plus créatif en matière de musique, comme l'ont montré si vous voulez, la musique du reggae qui correspond à au fait que dans les îles, dans les Caraïbes, les studios d'enregistrement, le prix des studios d'enregistrement est tombé, le monopole des majors dans la production du disque est tombé, et donc ça a créé quand même une forme de musique extrêmement importante. Et là, si vous voulez, on a pour le hip-hop ou pour plein de choses, on a l'apparition d'une floraison de création. Et donc les majors qui jouissaient avant d'un monopole, non seulement voient ce monopole érodé technologiquement, mais elles voient surtout leurs recettes baisser mécaniquement du fait que, si vous voulez, le prix c'est toujours un aspect politique. C'est-à-dire que vous acceptez de payer un prix parce que vous tenez à quelque chose. C'est pas simplement une question de coût de revient, etc. Et si on vous vend de la merde en boîte, au bout d'un moment, vous allez considérer que vous n'avez pas de raison de payer en plus. D'autant que les majors ont usé de promotion des disques, si vous voulez, dans les top 50 diverses, qui étaient des formes à peine détournées de corruption passive, c'est-à-dire que les boîtes qui acceptent de payer 45 fois, de passer 45 fois les mêmes tubes pour en faire, les installer dans le paysage, les maisons de disques, les finançaient largement. Alors, bien sûr, elles sont pas totalement idiotes, c'est-à-dire quelquefois elles passent pas à côté de choses importantes, mais bref, le public se diversifie, le public s'amplifie. Il y a un nombre extraordinaire de gens qui regardent de la musique et beaucoup de gens qui n'ont pas un rond d'argent de poche. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ces gens ne sont pas solvables. ben ils vont écouter, ils vont télécharger, ils ont du temps. Napster, ça prenait énormément de temps de télécharger. Il n'y avait pas encore le haut débit, c'était épouvantable. Il fallait mettre des heures, passer des nuits. N'empêche que maintenant, les gens s'y mettent et les majors réagissent. Alors, elles réagissent très violemment en proposant d'abord une campagne un an avant la loi de l'FCI dans le monde, que j'avais d'ailleurs utilisé dans mon cours, on voyait des barreaux. Télécharger, ça peut coûter très cher, 300 000 euros, un an de prison, enfin des sommes vertigineuses. La loi est proposée, la loi est concoctée sans discussion dans la bonne tradition de la Ve République. Et quand les députés aperçoivent la chose, alors il se produit une chose étonnante, c'est qu'une partie des députés qui n'y connaissaient strictement rien en matière de technologie, comme souvent, et qui sont mis au jus, au parfum par leurs enfants, découvrent avec horreur que leurs propres enfants télécharge. Donc, voyez la tête d'un député UMP qui se retrouve avec son fils derrière les barreaux et lui à devoir payer 300 000 euros d'amende. Donc, résultat, on a une véritable petite fronde dans la majorité. Dans la commission qui était chargée de ça, le gouvernement a espéré expédier la chose en commission. Eh bien, une proposition émerge. Et cette proposition, en décembre, alors que la loi devait passer en catimini, la proposition émerge, c'était il y a plus d'un an et demi maintenant, elle émerge et là, les députés PS, UMP, gauche, etc., se mettent d'accord et proposent une approche totalement changée qui est un peu proche de la taxe sur les supports vierges, qui consiste à dire on va proposer un amendement groupé pour des tarifs accessibles, bas et illimités. Le produit ainsi réparti sera... Le produit ainsi collecté sera réparti sur les titres les plus téléchargés, les plus, etc., puisqu'on a les moyens techniques d'enregistrer tout ça. Bon. Le gouvernement est tellement estomaqué, le ministre de la Culture est tellement estomaqué, que, comprenant qu'il va se faire un enfant dans le dos par une opposition alliée à sa majorité, retire le texte de loi et fait disparaître le texte de loi pendant 3 mois, le temps que le travail de lobbying intense des majeurs et porter ses fruits, ce qui fait que au terme de la proposition, alors au terme des 3 mois, vers le mois de mars-avril, la proposition est votée, passe en force, est votée, alors avec quelques aménagements, il y a une première proposition qui est relativement avantageuse, parce qu'effectivement, l'amende pour téléchargement tombe à un niveau ridicule. Et d'autre part, on s'achemine vers quelque chose d'inapplicable. Bon, le gouvernement qui n'est pas content revient dessus après une forte pression des majors, pression des majors dans la chambre, dans l'hémisphère, la chambre des députés, qui atteint un tel niveau que on s'aperçoit que les projets de loi sont portés par la femme de un tel qui est à la SACEM ou carrément chez les majors, c'est-à-dire qu'on est dans le népotisme le plus effréné. La chambre vote, parce que de toute façon c'est une chambre à l'époque de Godillot, et puis je pense pas que ça va changer maintenant. Le résultat des courses est que nous avons une loi qui est chargée répressivement, et alors là on obtient quelque chose qu'on appelle dans l'économie un overshooting, c'est-à-dire qu'à force de vouloir faire une loi sévère, parce que là on a renforcé les amendes, le caractère dissuasif économiquement, on se rend compte que c'est totalement inapplicable. C'est-à-dire que quand vous avez des comportements qui concernent des millions d'exemples de gens par jour, vous ne pouvez pas mettre une compagnie, vous pouvez mettre 5 compagnies de CRS face à 10 000 manifestants qui sont centralisés en un coin, qu'on peut isoler. Vous pouvez pas, face à plusieurs millions de personnes par jour qui sont dispersées aux 4 coins de la France et qui rejoignent les probablement 400 millions de personnes qui téléchargent par jour un peu partout sur la planète. C'est totalement exclu. Donc la loi est tellement bêtement faite, qu'elle va avoir un destin qui est de ne pas être appliqué dans les 9 dixièmes ou dans les 99 centièmes des cas, donc son effet dissuasif n'aura pas de poids. Et d'ailleurs, la Suède, qui était un pays relativement sur les libertés publiques plus précautionneux que nous, mais qui badine pas sur les questions de droit de la propriété intellectuelle, avait pris des dispositifs un peu similaires, et très vite, au bout d'un an, elle s'est rendue compte qu'elle allait devoir réviser la loi. Donc la question de la DAFSI n'est pas « cette loi est-elle bien appliquée ? Pourrait-elle davantage ?» Avec d'ailleurs, je vous rappelle que sur le net, l'actuel président de la République, Sarkozy, n'a pratiquement rien dit, sauf une chose, c'est qu'il était contre la formule qui avait été trouvée par les députés d'un forfait universel, d'un forfait, etc. Donc il a vraiment pris parti pour les majeurs. Mais aura-t-on, moi je pense que la vraie question c'est quand est-ce qu'on va réviser cette loi et qu'on avalisera des usages pour une raison aussi économique, c'est que si on veut sauver l'industrie du disque, y compris les majors, si on ne promeut pas ces espaces de gratuité comme les espaces de low cost qui existent, comme par exemple Philippe Lanchener vient de le montrer dans son petit livre sur le low cost, cette industrie elle-même sera foutue, car le gratuit est la condition pour qu'il y ait un public et que le public qui a de l'argent trouve le chemin des bacs, parce que le public qui n'en a pas et qui aura pu écouter gratuitement aura forgé le goût, les succès, etc.
Oui, il y a aussi la question de diffusion, c'est que ça fait beaucoup de publicité pour les albums et pour les artistes que voilà. Ça diffuse sur le net.
Voilà, et ça fait une publicité, ça crée un réseau, si vous voulez, gratuit. Les gens, en téléchargeant, créent gratuitement un réseau.
Donc oui, je vous coupe, je vais passer un peu de musique pour les auditeurs et bien on sûr. En reparle tout de suite après.
Bien sûr.
Donc tout de suite, de la musique sur Graphite, donc avec Hype, le titre My Innocence. Donc de la musique libre sous Creative Commons, sur Graphite 94.9.
Will please you till I have none. No foreign six lies and speeches. I move just reach the sun. Thank you.
Et finalement, de son caractère, de son caractère un peu pervers.
Oui. Bah, écoutez, non, je pense que comme toutes les lois, vous savez, il ne faut pas s'imaginer se représenter le pouvoir, le mythifier comme pouvant tout faire. Les législations qui finissent aux oubliettes, les législations ultra-réactionnaires, quand elles ne déclenchent pas des barricades et des rébellions totales, et quelquefois qui dégénèrent en insurrection et en révolution, les lois les plus réactionnaires et les plus stupides passent à la trappe parce qu'elles sont inapplicables. C'est-à-dire que les forces répressives elles-mêmes se rendent compte que c'est totalement à côté de la plaque. Alors, dans ce cas, ce qui est quand même important, et c'est la chose au-delà de s'obnubiler sur la répression, il faut voir la création de ces espaces libres comme très important pour plusieurs raisons. À la fois parce que ce sont des espaces qui nous garantissent une liberté de création, une biodiversité culturelle qui est très importante. Parce que quand vous êtes un petit, il y a 30 ans, quand vous étiez, vous faisiez de la musique, comme c'est raconté dans un certain nombre de sagas d'Hollywood, vous faisiez du bon jazz. Si vous ne tombiez pas sur un bon distributeur qui devenait un grand distributeur qui vous a signé un contrat d'exclusivité, vous ne perciez jamais parce que vous n'aviez jamais accès au réseau. Aujourd'hui, avec les radios libres, avec l'ensemble des canaux télévisuels qui s'est mondialisé, qui s'est diversifié, 140, 150 chaînes, 250 chaînes, et d'autre part, des moyens technologiques qui font que vous pouvez produire votre musique, etc., la question de la diffusion devient fondamentale. L'Internet a montré que vous pouvez montrer ce que vous savez faire sur l'Internet, etc. C'est ça qui va créer du réseau. Autrement, quand vous vous attendez, par exemple, d'un petit disque, vous aimeriez bien que ça se vende, que ça se vende bien, mais que les recettes que vous pouvez raisonnablement attendre d'un premier disque représentent un dixième de ce que ça vous coûterait de faire de la pub pour le dit disque sur les réseaux très monopolistes de la diffusion, bah le résultat, c'est qu'avant, vous vous absteniez et vous aviez une espèce d'underground totalement confidentiel et pas du tout d'expansion de masse. Là, aujourd'hui, vous avez les bases de créer une biodiversité. Bon, ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, si vous voulez que la musique vive et qu'y compris un marché de la musique, je pense que le modèle, comme l'a dit Jacques Attali, comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues à l'École des Mines, comme Olivier Bloncel, qui a fait un très bon livre sur le gratuit, je parlais du petit bouquin de Lan Shenner aussi sur l'Odyssée des prix, eh bien, rendez-vous compte que le futur, dans le futur, comme le coût des réseaux, d'accès aux réseaux est très très cher, le coût publicitaire, la seule façon d'avoir un modèle économique, c'est que c'est le succès, c'est le public lui-même qui le fait. C'est-à-dire, c'est en téléchargeant les disques, que le public se forme, que le réseau se monte et que ce réseau devient à son tour une force économique. Pourquoi et comment ? Parce que quand vous mettez, si au lieu de montrer des morceaux, des samples minuscules de disques en vous disant « Ah, allez acheter pour écouter », sinon vous avez... Bon, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, vous n'écoutez pas parce que si vous deviez écouter les 50 ou 60 morceaux de musique qui vous intéressent dans la journée, vous auriez déjà dépensé 20 euros. Comment vous faites ? Expliquez-moi, même un prof d'université ne peut pas se payer 20 euros par jour à écouter de la musique. Bon, d'abord, il n'a pas le temps, mais des jeunes qui ont le temps n'y arriveraient pas. Donc, déjà, il y a ça. Deuxièmement, si vous essayez véritablement si vous avez accès à la musique réelle, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez dire, si c'est dégueulasse, vous allez dire, c'est dégueulasse, et vous allez transmettre à vos copains, c'est vraiment pas la peine d'aller ni l'acheter, ni l'écouter. Mais si, en revanche, elle est bonne, que va-t-il se passer ? Soit vous allez dire à votre grand frère, à votre oncle, à votre cousin, qui lui est plein de fric et n'a pas le temps de chercher, donc qui va aller chercher dans un bac, donc vous allez générer de la demande commerciale. Oui. Soit, autre chose, quand bien même vous refilez gratuitement à vos copains, qu'est-ce que font ces copains ? Ils vont apprécier ce disque, ils vont apprécier l'individu, l'artiste, et qu'est-ce qui va se passer ? Quand il va venir en tournée, les gens vont se faire piler pour aller acheter à 40 euros des places. Et comme le disait Attali, Jacques Attali, la musique, on le voit très bien maintenant, les groupes tendent de plus en plus à rendre gratuit l'accès à un certain nombre de leur productions pour que le public puisse devenir un public, et ensuite ils récupèrent les modèles économiques sur quoi ? Bah, sur la musique vivante, c'est-à-dire quand vous allez à un concert, et c'est pas le morceau que vous avez enregistré que vous allez écouter, c'est la variation, c'est un peu comme dans le jazz, l'improvisation, c'est l'improvisation que l'auteur va faire sur ses trucs. Moi qui suis d'une génération plutôt Dylan, vous avez qu'à penser ce que Dylan était capable de faire quand il reprenait des tubes qu'on connaissait tous par cœur. Donc ça c'est un modèle, un changement de modèle économique, c'est ça qui est très important, parce que ce modèle économique remplit exactement le rôle qu'est en train de jouer le low cost dans énormément de choses. C'est-à-dire, c'est le produit d'appel. Et ce produit d'appel inclut la gratuité. Et si vous voulez faire de l'appel en squeezant la gratuité, c'est-à-dire aux gens, fabriquez-moi du réseau, mais Tintin pour que vous puissiez l'avoir gratuit, bah les gens disent non, c'est tout.
Ils disent non, et ils peuvent pas non plus, comme vous dites, payer 20 euros par jour.
Non, c'est totalement impossible. C'est... En plus, il y a une escroquerie. Alors, là, une escroquerie du point de vue économique. Vous ne pouvez pas prendre l'ensemble des téléchargeurs, des gens qui téléchargeaient. Je prends l'exemple de Napster. Il y avait 32 millions de personnes qui téléchargeaient quotidiennement sur Napster. Donc, qu'est-ce que faisaient les compagnies de disques? Elles prenaient le prix d'un CD, entre 14 et 25 euros, ou 22 euros, et elles disaient, je multiplie ça par 36 millions, et voilà le père de la recette. Mais le problème, c'est que sur les 36 millions, combien il y avait de gens qui étaient capables de payer, qui étaient solvables? Un nombre ridicule. Quand Napster a fermé, a été repris par Bertelsmann sur un modèle économique de paiement, vous savez combien on est passé? On est passé de 36 millions à 400 000. Donc le vrai rapport de la demande solvable, c'était 400 000 sur 36 millions. Donc ce qu'ils avaient éventuellement perdu, c'était la somme du prix des CD que multiplie la demande solvable. Mais autre question que je pose, ces 36 millions ont généré combien de demandes solvables supplémentaires? Combien de gens qui avaient du fric, qui ne seraient jamais allés acheter ces disques, ont été parce que le réseau s'était formé et que ce réseau avait constitué le public. Voilà le modèle économique. Et c'est le modèle d'ailleurs de la pub intelligente. Pourquoi croyez-vous que les radios sont gratuites? Est-ce qu'on vous fait payer quand vous êtes à la radio? Quand vous écoutez la radio chez vous, vous achetez l'appareil radio. Est-ce qu'on vous fait payer les disques que vous entendez? Non. La maison de radio, elle, en se finançant par la pub ou par autre chose, paye aux auteurs les disques qui passent, mais le public écoute de la radio sans payer. Ce qui nous entraîne d'ailleurs à la question des DRM auxquelles vous voulez arriver.
Absolument. Donc merci pour toutes ces précisions. Donc effectivement, la deuxième partie de l'émission, on voulait un peu la consacrer aux DRM, ou plutôt en français, on appelle ça les moyens techniques de protection. Donc c'est un peu les dispositifs qui sont mis en place pour tenter d'appliquer la loi d'AFSI. Donc ces dispositifs, on peut les résumer en six points. Donc il y a des dispositifs qui sont anti-copie, donc qui interdisent la copie. On le voit par des CD audio par exemple qui sont illisibles sur des ordinateurs. Il y a des dispositifs d'identification d'utilisateur. Donc ça pose un certain nombre de problèmes avec les lois en France notamment. Qui autorise la lecture seulement pour un utilisateur identifié. Il y a aussi le tatouage de l'œuvre et le traçage de l'œuvre.
Oui. Alors, il faut bien voir que cette question des DRM vise à la fois le marché de la musique, le marché de l'écrit, des livres, parce que les livres électroniques vont bientôt arriver sur support, Dieu merci, sur support électronique recyclable, ce qui évitera de bouffer des forêts, ce qui aura un effet sur le développement durable important, mais surtout, et maintenant ça arrive tous les jours, sur l'image, et l'image mobile, c'est-à-dire le cinéma. Alors, une situation, si vous voulez, d'implosion et d'explosion à la fois, de ce que j'appelle l'exécution des droits de propriété intellectuelle traditionnels. Ça devient impossible. Pour vous donner une idée, les films qui concourent aux Oscars à Hollywood, qui sont donc concernent les prix décernés par les professionnels qui reçoivent les copies, des copies pour, c'est un jury hein, qui doit voter avant et qui reçoivent 15 jours ou 3 semaines avant le film et qu'ils regardent, les copies de ces films sont en vente libre dans les métros de Mexico avant même que, ou tout juste au moment où le festival a lieu, ou la nuit des Oscars a lieu. Donc il y a une énorme... Alors, pourquoi? Parce que c'est aussi fonction du prix, évidemment. Parce que vous savez très bien que les DVD, machin, coûtent très cher et que plus le prix est élevé, plus évidemment la tendance à la fraude est forte. Deuxième chose, donc évidemment, alors il y a un problème qui est un peu plus compliqué, si vous voulez, que dans le cas de la musique, et auquel il faut faire très attention, parce que la question des auteurs et de comment vivent les auteurs et de comment vivent ceux qui travaillent à l'œuvre est importante, des interprètes et des auteurs. Souvenez-vous, regardez ce qu'un générique de cinéma génère comme emploi, les techniciens du son, comme vous derrière la console, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils vivent, parce que dans la rémunération de la place de cinéma, on rémunère pas simplement les scénaristes et les auteurs, on rémunère, enfin les auteurs du scénario et les acteurs, on rémunère donc les interprètes, on rémunère le dispositif technique qui comprend des électriciens, qui comprend des dizaines de choses, des centaines de choses. Alors là, il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il va falloir arriver à ou une taxe sur les supports vierges, ou autre chose, ou un système, mais on est obligé probablement d'avoir des faibles revenus qui sont collectés de façon très très large, car il n'est pas dit que le public soit pas prêt, si vraiment les prix atteignaient des niveaux de low cost très bas, qu'ils soient pas prêts de contribuer un peu. Sur une base d'ailleurs à la fois de la qualité et qu'il n'y a pas de raison que les ingénieurs, les techniciens soient pas rémunérés, qu'on ne rémunère seulement que les artistes, enfin ceux qui sont devant la scène, si vous voulez, pas ceux qui sont dans les coulisses. Alors, la chose qui est très importante, c'est que, évidemment, la solution, comme toujours, qui a été prônée, c'est on va réaffirmer les droits de propriété anciens, et pour qu'on puisse appliquer les droits de propriété anciens, on va trafiquer la technique, comme on en a les moyens maintenant, et on va créer de la traçabilité totale. Alors, de la traçabilité totale qui va d'ailleurs, qui arrive à des niveaux absurdes. Dans l'excellent livre, le petit livre que je recommande à tous nos auditeurs d'Olivier Blondeau et de Florent Latrive, Libres enfants du numérique, ça commence par une anthologie de tous les textes des plus grands auteurs américains qui défendent le libre. Et il y a notamment une nouvelle extraordinaire de Stallman, qui est une université américaine au début des années, je sais pas, on doit être en quelque part entre 2015 et 2030, où chaque individu a son ordinateur, il ne peut plus lire que sur un ordinateur, il lui est interdit de prêter son ordinateur à quiconque, il est interdit évidemment de lire autrement que sur l'ordinateur où on contrôle son temps de lecture, vous voyez ce que ça veut dire. Alors tous ces projets ont fleuri parce que on peut mettre sur votre ordinateur des spyware, c'est-à-dire des gens qui espionnent tout ce que vous faites, on peut aussi vous relier par ordinateur, chaque fois que vous vous connectez à l'internet, que la maison mère aille vérifier que vous n'avez pas trafiqué ses logiciels, etc., etc. Alors là, la question, c'est la limite jusqu'où on peut aller. Alors, il est évident que, rendez-vous compte, il a fallu des siècles pour imposer là, ce qu'on, en anglais, on appelle la privacy, c'est-à-dire le respect de la personne privée. Par exemple, le fait qu'une lettre est strictement personnelle et qu'elle ne peut, à moins qu'un juge ait un mandat, si vous voulez, en bonne et due forme, elle ne peut absolument pas être ouverte. Imaginez ce que sont les courriers électroniques, imaginez la façon dont les administrateurs de sites peuvent aller regarder tout ce que vous regardez sur l'Internet. Alors ça peut aller, ça peut être extrêmement grave parce que ça peut aller, on peut aller regarder ce que les gens font du point de vue de leur préférence sexuelle, après faire du chantage, on peut aller regarder tous les hommes politiques, on peut aller regarder, on peut créer un bordel total parce qu'on peut jeter des hoax là-dedans. Comme, bon, alors là, c'est la limite. Alors, les droits de les moyens de protection technique peuvent aller très très loin. Ils sont allés aux États-Unis puisque, si vous voulez, la vie cherche son cours malgré toutes les formes répressives. Donc, si vous cognez sur les gens qui téléchargent, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils téléchargent de la musique comment ? En écoutant de la musique à la radio. Donc, on s'est dit, ah ben, on va créer quelque chose qui empêche les gens qui écoutent la musique à la radio de pouvoir, même si la qualité est dégueulasse, parce que ce qui les intéresse, c'est la musique, etc., la regraver sur des CD et la faire circuler en numérique, etc. Donc, on fait... Alors, le plus classique et sur lequel il y a eu des moyens de protection technique, sur lequel il y a eu récemment une victoire du libre importante, c'est la question, effectivement, de systèmes entièrement dédiés, entièrement fermés, comme le système d'iPod qui empêchait, par exemple, la Fnac de vendre des contenus qui puissent être téléchargés sur différents systèmes de lecteurs du genre de iPod ou de ses concurrents. Et le résultat des courses est que la spécification technique devient un vrai problème parce qu'elle parcellise le marché et le consommateur est captif. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système technique, déjà, vous ne pouvez pas en sortir pour aller voir ailleurs. Donc ça, c'est le contraire de la concurrence, c'est le contraire du marché. Mais surtout, on aboutissait à des choses totalement démentielles, c'est que c'est un encouragement au téléchargement totalement pirate totalement qui ne donne aucun droit, parce que là, vous récupérez un contenu libre, interchangeable et non strictement bloqué par des standards techniques, alors que les malheureux qui avaient acheté un CD tout à fait normalement, ils se retrouvaient incapables de le foutre sur leur lecteur de CD dans la voiture, sur leur baladeur, etc. Et là, effectivement, les constructeurs qui voulaient fermer ça ont subi une série de défaites. D'abord Microsoft, le plan Palladium, qui voulait mettre un espion sur tous les ordinateurs des gens, a foiré, a cassé. Deuxièmement, les distributeurs de contenu, de musique, pour leurs propres intérêts commerciaux, j'insiste, pas parce que c'est des apôtres du libre. Denis Olivet n'est pas particulièrement un grand apôtre du libre. Et il veut pourchasser les téléchargeurs, les pirates, etc. sur le web. Il n'empêche que pour continuer à faire des affaires à la FNAC, il a été obligé de poursuivre
Apple.
Il a été obligé, il a fait la même chose sur d'autres choses. Et ce qui est très important, c'est que les normes de standardisation sont en train de gagner. C'est comme si vous voulez, parce que imaginez les constructeurs automobiles, si pour rester captif, pour garder captif sa clientèle, Ford avait décidé que l'écartement des roues, que la hauteur des roues, que la hauteur des sièges, que toute la hauteur serait sa norme à lui, sur laquelle d'ailleurs il déposera un brevet, interdisant aux autres d'avoir la même norme, et puis qu'il ait dit, les autres, ils auront des petits trous, ils auront des... Ça devient complètement délirant, c'est-à-dire que du point de vue de la sécurité, du point de vue... ça devient délirant du point de vue industriel et du marché. Mais ce qui est grave, c'est que les conséquences de ça, et c'est ça qu'il faut dire concernant les droits de... les moyens techniques de protection et la DAFCI et la loi de confiance numérique, les conséquences sur les libertés publiques sont catastrophiques. Parce que, précisément, nous sommes dans une ère post-11 septembre, parce que les phobies antiterroristes sont très actives, et que si vous laissez à des forces étatiques la tentation d'aller regarder partout, si vous voulez, là, vous accomplissez Orwell décentralisé, sans, si vous voulez, le fait que Big Brother, on voyait qui il était, etc. Là, vous le décentralisez, et c'est une catastrophe, parce que la notion de privacy, de privauté disparaît, la notion de protection du citoyen disparaît, et je dirais que du point de vue économique, c'est complètement débile. C'est-à-dire que c'est pour avantager une petite caste, une corporation qui est en déclin, que l'on fiche par terre des conditions d'épanouissement de la diversité culturelle, mais aussi des modèles économiques qui sont tout à fait viables et qui sont tout à fait plus intéressants.
Voilà. Exactement. On continuera un peu sur ces problèmes après une petite chanson. Donc là, on va écouter toujours de la musique libre, Itchtier de Bluster.
Ouais. Donc tout de suite sur Graphite 94.9, donc toujours sur Monde Libre, sur Graphite 94.9, tout de suite Bluster.
The trust and make me feel the cold of the shame. If you let me sound my like a fool, I'll stand up and scream thank you. But I realize it was no big deal. Every time you smile I'm going so well. Nothing to do again the way you hate. I can't swallow all my pride and free my hate. It's tea which falls up to you. It's tea which falls, helps you to stay. It's tea which falls, helps you to stay. It's tea, it's tea. It's
tell me I have to be stronger. This is not the end, you can go further. I don't really know what can I do. Even if I die, I have to scream thank you. Crying is so bad, we're home at time. Could you take my hand, it's gonna be fine. And if I need to fly, I will run away. Don't think it's too late, come on my way.
Vous êtes toujours sur Graphite 94.9 avec notre invité Yann Mouillet-Boutang. Donc on a parlé juste avant des DRM, donc justement de l'inviabilité de ces techniques de protection. Et donc justement on va conclure là-dessus.
Oui, alors on peut peut-être faire un peu le rapprochement entre les DRM et le monde du libre et du logiciel libre en particulier, puisqu'on avait consacré notre dernière émission au logiciel libre. C'est intéressant de voir en quoi finalement les moyens techniques de protection peuvent à long terme entraver.
Bon, alors il faut expliquer à l'ensemble de ceux qui écoutent votre station, il faut leur expliquer pourquoi effectivement les partisans du logiciel libre ont profondément attaqué ces lois comme attentatoires d'ailleurs à un sujet dans lequel les Européens sont très bons et qui peut nous classer. On est complètement dans les choux de Bruxelles, c'est le cas de le dire, dans les biotech, mais il se trouve que dans l'électronique, ça se porte fort bien, et dans l'informatique, et d'ailleurs les boîtes américaines sont très très contentes de racheter des boîtes françaises, des start-up. Elles trouvent qu'elles sont très créatives, d'autant que les gens sont payés, les ingénieurs sont payés 4 fois moins qu'aux États-Unis, etc. Et puis alors les françaises, ils les rachètent, et puis ils virent la moitié des gens, parce que les Français virés partent aux États-Unis, s'installent aux États-Unis. Donc c'est du brain drain un petit peu musclé. Mais ça, c'est notre faute. Hein, tant qu'on paiera aussi mal les ingénieurs et tant qu'on n'arrivera pas à développer des choses. Donc, je reviens à mon propos. Les gens qui défendent le libre, je pense à April, la Fédération des usagers du libre, etc., ont profondément attaqué les DRM. Pour quelles raisons ? Ben, il faut comprendre que tout le principe du libre, c'est que le programme de votre logiciel doit être ouvrable, il n'est pas plombé, donc il n'est pas livré sous version compilée, et vous pouvez, accédant aux fonctionnalités, vous pouvez donc, évidemment, ficher en l'air les fonctionnalités qui limitent l'accès ou qui sont artificielles, ou vous pouvez surtout voir les spyware, et les différents espions, les différents logiciels petites bêtes que les fabricants vous placent pour vous espionner, etc. Alors, ou les cookies, enfin les différents mécanismes. Alors évidemment, qu'est-ce que sont obligés de prévoir les DRM pour que ça marche techniquement, pour que ce ne soit pas immédiatement détourné dans l'heure qui suit, hein. Parce que chaque fois qu'ils font des trucs comme ça, ils lancent des défis. Vous allez voir, nous avons la technologie la plus solide. Et puis, une demi-journée de hackers et boum, ça perce. Je vous signale que c'est passé inaperçu. On a fait le même genre de choses. Il y a des gens qui avaient déclaré que sur les logiciels, sur les bécanes, les hardware, véritablement très puissantes, Il y avait des logiciels de sécurité extraordinaires, etc. Et on s'est aperçu que il y avait des mécanismes des hackers qui étaient parvenus à percer les systèmes les plus sophistiqués d'encryptage en quelques minutes. Donc en réalité, il y a un problème. Bon, alors quelle est la tentation à ce moment-là des DRM pour que ça marche ? C'est de dire, ah mais interdiction, que évidemment les logiciels soient livrés avec le code source. Il faut que la version soit purement compilable, avec interdiction de faire du rétro, de la rétro-ingénierie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on dit délibérément que tous les systèmes de DRM, qui ne sont que des logiciels ajoutés à une autre couche de logiciels, doivent totalement être des logiciels propriétaires, fermés. Donc, ça veut dire qu'on condamne à mort les logiciels libres. D'autant que le principe des logiciels libres, ce que nos auditeurs savent peut-être, j'espère presque tous, c'est que quand vous combinez des logiciels libres avec des logiciels commerciaux, le logiciel libre exige, dans la version Stallman dure, le GPL, licence GPL et pas la version open source simple, ça exige que vous laissiez le nouveau système configuré dans l'état où vous l'avez trouvé, c'est-à-dire qu'il est libre et il doit rester libre. Donc, il doit être ouvert. Donc, si vous voulez, ça veut dire que, au fond, quand on allie des logiciels libres et des logiciels propriétaires, les logiciels libres l'emportent sur les logiciels propriétaires. Donc, ça inquiète énormément les boîtes qui vivent, qui ont un modèle économique, qui ne sont pas IBM, qui ne sont pas des boîtes qui s'orientent en fuyant la vente de produits logiciels fermés propriétaires, mais qui reposent sur des services rendus ou de l'apprentissage, etc. Mais toutes les boîtes qui ne vivent que sur du logiciel propriétaire vendu, bah pour elles, c'est la catastrophe. D'ailleurs, Microsoft reconnaît que Vista est la dernière génération. Il n'y aura plus de système d'exploitation qui soit vendable comme ça, parce qu'ils vont faire probablement Vista, Vista, blablabla, mais ça va s'arrêter parce que déjà sur le marché des serveurs, Linux a emporté le morceau, 80% des serveurs sont du logiciel libre, mais ça va arriver dès que la culture, les interfaces de logiciels, par exemple de traitement de texte, etc., vont être vraiment travaillées avec du libre, eh ben, on va avoir des fonctionnalités qui apparaissent. Et pourquoi voulez-vous que les gens achètent cher un produit qu'ils doivent racheter tous les ans quand ils peuvent s'acheter un produit téléchargeable gratuitement avec des mises à jour qui sont faites par la communauté ? Donc, c'est la fin de ce modèle. Mais ce modèle a la peau dure et évidemment, il veut nous coller ça. Et alors, pourquoi c'est un modèle qui est terrible sur le logiciel libre et pourquoi, par exemple, des pays qui, au départ, étaient très DRM, très répressifs, comme la Pologne, hein, parce que la Pologne, on fait pas mieux comme répressif en ce moment, eh bien que la Pologne s'est ralliée finalement à la position des logiciels, de refuser la brevetisation des logiciels qui va de pair avec le côté propriétaire des logiciels, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que les petites et moyennes entreprises, l'activité décentralisée, les collectivités publiques ont besoin de ces espaces libres. Elles en ont besoin parce qu'elles n'ont pas de ressources, parce qu'il leur faut ça pour s'équiper et parce que c'est évolutif et parce qu'il faut aussi que nous ayons des systèmes qui soient protecteurs des libertés publiques. Et la meilleure des protections des libertés publiques, c'est la transparence, l'ouverture des codes, de savoir ce qui s'y trafique, parce que comme ça, on sait si les services secrets de tel ou tel machin, les pouvoirs publics, les sociétés privées font des interventions ou pas. Je vous rappelle que quand on peut lire dans la programmation des ordinateurs, on voit tout ce qui s'y opère très facilement, donc on peut retracer. Il faut reprendre le thème de la retraçabilité, mais du côté des citoyens. Une retraçabilité citoyenne plutôt qu'une traçabilité de Big Brother. Voilà.
Mais écoutez, oui, nous sommes largement d'accord avec vous. Et de toute façon, avec Quentin, on passe beaucoup de temps à l'UTC à tenter de promouvoir les logiciels libres.
Oui. Très bien. Bah, je vous signale qu'à la Villette, à la Cité des Sciences, ce samedi 19 mai, il y aura l'après-midi une grande discussion organisée par April avec la présence de Richard Stallman, différentes personnes. Et donc je conseille aux étudiants qui peuvent s'y rendre, il va y avoir toute une série de débats intéressants. Ceux qui veulent vont sur le site April, www.april.org, et doivent trouver les modalités de cette réunion de la Villette, de la Cité des Sciences, qui risque d'être très intéressant à la porte de la Villette à Paris.
On organise d'ailleurs le 30, 31 mai et le 1er juin les journées de logiciel libre, et il y aura des conférences notamment avec le délégué général de l'April qui viendra, je crois, le 31 juin.
Donc, Frédéric Couchet.
Voilà, oui, exactement. D'accord. Donc, ouais. Il vient le midi faire une petite conférence. Comme on fera à cette occasion aussi une émission de radio, je pense qu'on pourra peut-être l'inviter, lui, ou un autre conférencier.
On essaiera de l'inviter.
Sur ce sujet.
Très bien, merci beaucoup.
Donc, on va passer maintenant un petit peu de musique.
Voilà.
Donc c'est Say Me Goodbye de AMPM.
Voilà. Tout de suite sur Graphite. Thank you.
Voilà, c'est donc la fin de cette émission. On a été très heureux de vous accueillir, Yann Moulier-Boutang. Peut-être que vous souhaitez faire une petite conclusion pour nos auditeurs, quelque chose de très rapide, qu'ils doivent retenir finalement sur la douane d'AFSI, les DRM.
Je pense que c'est des législations qui sont à la fois liberticides, ce qui est grave du point de vue de la conscience citoyenne, très peu favorable à également profondément anti-économique au sens intelligent du terme. C'est-à-dire qu'au nom de la défense d'une vision de l'économie et du marché qui date d'il y a 50 ans, on est en train de planter complètement les forces d'innovation, les forces de nouveaux modèles, et d'ailleurs, y compris, du coup, d'enterrer, y compris le catalogue des vieilles majors, parce que là, elle s'écroule. Ça va aller de mal en pis. Ça va toucher d'ailleurs les majors du cinéma, hein, qui est quand même un art énorme, avec des conditions économiques considérables. Et je pense qu'il y a en plus une responsabilité dramatique, c'est que du coup, en n'ayant pas mis en place des systèmes qui s'occupent des droits d'auteur sous l'angle de permettre à des gens qui vivent dans la création je parlais des techniciens notamment, hein, pas simplement des auteurs, etc. On risque de compromettre l'avenir et l'emploi de tous ces gens parce qu'on s'en est tenu à un modèle économique qui est totalement à contre-courant. On lutte pas, si vous voulez, on lutte pas contre le courant, les vagues contre des tsunamis ou contre les vagues de la mer. On apprend à naviguer dessus. C'est pour ça qu'on dans l'Internet, la métaphore de la cybernavigation, c'est pas par hasard qu'on parle de navigation et qu'on parle pas de môle, de tang, de muraille, etc.
Oui, donc on l'a bien compris, il faudra qu'à un moment donné, quelque chose soit fait. Oui. Très bien, donc voilà. Merci beaucoup, on vous remercie de nous avoir suivis et puis on vous retrouve la semaine prochaine à 13h pour l'émission normale.